Le Globetrotter en action, les Insolites 2. J'étais parti pour assister à la conférence de presse d'Edwy Plenel et de la charmante demoiselle qui était avec elle et qui était en train de sortir le film depuis Mediapart, Naruna Kaplan de Macedo. Et en assistant à la conférence de presse, je me suis rendu compte que tout ce que disaient Naruna et Edwy Plenel était intéressant. Je vous propose une nouvelle formule pour préparer le 1er avril. C'est juste pendant 16 minutes la première partie de la conférence de presse qui va être liée après à une émission spéciale qui va vous permettre d'écouter pendant 55 minutes la conférence de presse en totalité de ce film depuis Mediapart. On y découvre plein de coulisses, plein de choses originales. On découvre aussi un grand monsieur qui est en train de se retirer, le monsieur à moustache, et qui est en train de laisser la place à des jeunes. C'est tout simplement Edwy Plenel et Naruna Kaplan de Macedo. Et pour commencer, eh bien, on entend tout simplement monsieur Edwy Plenel en train de dire qu'il est journaliste. A tout de suite.
Moi, je suis journaliste. J'écris ce texte à l'époque où je suis un peu le seul à avoir dévoilé toute la part d'ombre de la présidence de François Mitterrand. Je le ferai, comme vous le savez, sous d'autres présidences. Je le fais avec les armes de notre métier, avec un seul code de la route, qui est la loi de 1881. Joseph Fouché a servi le pire ennemi de la liberté de la presse dans notre pays, qui fut premier consul et qui fut empereur, qui ne supportait pas son pluralisme. Moi, je ne fais pas de fiches, je ne pose pas de micro, je n'espionne personne, je publie des informations d'intérêt public. Quand j'écris ce texte, à l'époque, mes enquêtes sont dans un journal imprimé qui s'appelle Le Monde. Quel est notre matériau à l'époque? Ce sont des rapports, ce sont des documents, ce sont des témoignages. Évidemment, parfois, ces rapports, ces documents sont protégés par des secrets. Mais la règle dans notre République et dans la jurisprudence républicaine, c'est qu'il y a une balance de droit. C'est-à-dire qu'il y a parfois le droit de savoir l'emporte sur ses secrets, l'emporte sur les secrets qui indûment protègent des informations d'intérêt public. C'est ce que nous avons fait à chaque fois dans toutes les révélations que nous avons pu faire. Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du numérique. Il y a plein de machines autour de moi. Notre matériau, à nous, journalistes d'enquête, ce sont des textes, ce sont des témoignages, mais ce sont aussi des vidéos. L'affaire Benalla commence par des vidéos. Ce sont aussi des photos. Parfois, il y a des photos qui permettent d'établir des faits. Et puis, ce sont aussi des audios. C'est le cas des audios Bettencourt, c'est le cas de l'audio Cahuzac, c'est le cas, évidemment, des audios récemment de M. Benalla et de M. Kraz. À chaque fois, et nous en répondons encore une fois dans le cadre de la loi de 1881, notre règle, c'est de vérifier, de recouper, de s'assurer de l'authenticité, de la loyauté, du fait que tout ça ne soit pas trafiqué. Et ma responsabilité, soit de journaliste qui écrit, soit de directeur de publication, c'est de s'assurer que ce sont des informations d'intérêt public qui ne portent atteinte à l'intimité de personne. C'est ce que la justice a tranché dans le cadre des enregistrements Bettencourt, puisqu'elle nous a relaxés, d'ailleurs ainsi que le majordome. C'est ce qu'évidemment la justice a dit dans l'affaire Cahuzac. Et c'est évidemment le cas des enregistrements Benalla, qui à ce jour ne font l'objet d'aucune poursuite et d'aucune plainte. Ce sont des informations d'intérêt public. Et je ne suis pas policier, je suis journaliste avec la même carte de presse depuis 1976. Je ne suis ni auxiliaire de police, ni auxiliaire de justice. Je suis au service du droit de savoir des citoyens. Et sans nous, sans Mediapart, il y a beaucoup de choses que nos citoyens ne sauraient pas. Ils n'auraient pas su le financement libyen de la campagne de M. Sarkozy. Ils n'auraient pas su l'affaire Karachi. Ils n'auraient pas su l'affaire des caisses d'épargne, ils n'auraient pas su l'affaire Bettencourt, ils n'auraient pas su, bien avant MeToo, la question des violences et des agressions sexuelles dans des lieux de pouvoir, ce pouvoir masculin qui se passe du consentement des femmes. Et ils n'auraient pas su tous les rebondissements récents de l'affaire Benalla, les passeports diplomatiques, le contrat russe, la violation du contrôle judiciaire. Heureusement qu'il y a des journalistes qui font ce travail-là. Face à eux, ils ont, comme souvent, les avocats du pouvoir. Ils existent, ils sont nombreux. Ils peuvent être de très bons avocats et de très bons plaideurs, avec de fortes voix et un physique impressionnant. Mais il n'empêche qu'ils défendent les puissants. Nous, nous sommes, encore une fois, au service de ce droit de savoir. Et d'ailleurs, je crois que le succès de Mediapart et la popularité de Mediapart font que personne ne s'y trompe. C'est ce qui fait le côté Robin des Bois de Mediapart. Nous prenons des secrets aux puissants et nous les donnons au peuple parce que ce droit de savoir est plus essentiel que le droit de vote. Mais comme vous ne prenez pas de notes ni n'enregistrez, je pense que vous n'êtes pas venu pour faire tout à fait un reportage.
Je suis venu pour vous
écouter. Oui, bien sûr, mais comme c'est une conférence de presse, je réponds aux confrères qui travaillent.
Moi, ce que je fais un peu, c'est justement, je me suis dit, pour moi, Mediapart, j'ai eu l'occasion de voir Laurent Meudby, j'ai vu faire mes articles dans plusieurs conférences, et pour moi, Mediapart, c'est un peu la magie.
C'est, la magie ? Il n'y a pas de tour de magie.
Non, mais c'est la magie, c'est un endroit qui est caché, où on ne voit pas. Et ce qui m'a surpris en voyant le film, c'était qu'on ouvrait les portes. Et je me disais, mais il y a deux questions que je me suis posées. C'est premier point, quel est l'objectif ? Et deuxième point, je me suis dit, mais avec ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, n'y a-t-il pas un risque de se mettre en scène, de se mettre un peu devant ?
Bon. Alors, en tout cas, la première question, je la prends pour moi.
Oui.
L'objectif, alors c'est difficile de répondre à cette question parce que, bon, moi ce que je fais c'est du documentaire, c'est pas du reportage. Et je crois que la distinction se trouve dans la surprise. Quand on commence un film, on a des intuitions, on a des idées, on a des désirs, on sait pas où on va. La première chose, c'était vraiment de aller depuis ce lieu qui était le lieu qui manquerait politiquement à la France. Je lis Mediapart depuis 2008, depuis le début du journal. Et depuis le début du journal, c'est ma prière du matin, enfin, vous connaissez l'expression. Non, mais c'est vrai, ça commence avec ça, ma journée commence avec ça. Souvent se termine avec ça, depuis qu'on lit ça sur les téléphones aussi. Et c'était une façon de m'ancrer dans le réel. En 2015, en novembre 2015, au moment où j'ai l'idée du film, c'est un moment d'une grande confusion politique. Et Mediapart était le lieu où j'allais réfléchir, enfin, où j'allais mettre mes idées m'ancrer, quoi, dans... Donc, l'objectif, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est qu'il y a eu le désir d'aller chercher dans cet endroit virtuel, le concret de cet endroit virtuel, enfin, parce que ça m'aidait à penser. Et donc l'idée, c'était de donner des outils avec l'outil. Voilà, l'outil Mediapart, qui était un outil pour moi politiquement. Enfin, j'ai grandi avec Mediapart, c'est-à-dire entre 2008 et 2017, le journal a changé, j'ai changé, et je crois que j'étais en dialogue permanent avec cette rédaction, de façon imaginaire, évidemment. Bon, après, il y avait les files de commentaires, enfin, c'est un média participatif, hein, donc on se retrouve souvent dans des... c'était aussi des communications bien réelles, mais donc il y avait cette envie, voilà. Si objectif il y avait, c'était ça, c'était chercher les questions... depuis le lieu où elle me semblait énoncée de la façon la plus pertinente. Voilà. Je pense, à part ça, que vraiment, nous sommes la génération Mediapart. Enfin, c'est ma génération, elle a grandi avec ce journal. On a appris à aller chercher les nouvelles comme ça aussi. Et Mediapart donne du sens à un outil qui est très foisonnant, parfois très confondant. Et je crois que bon, j'avais cette ambition. Après, je ne sais pas, le temps dira si le film a fait son travail. Mais j'avais l'ambition de donner ça en partage. Voilà.
Alors, sur l'autre question, d'abord, en effet, le film de Naruna, comme vous avez compris, hein, Naruna, c'est son journal. Un journal, il appartient à ses lecteurs. C'est ce qui fait la réussite d'un journal, c'est qu'il ait des lecteurs. Et ses lecteurs ont des droits sur lui. Comme on dit souvent à Mediapart, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de mécène privé, il n'y a pas de subvention publique. Et bon, voilà, son métier est d'être cinéaste, et elle a blogué sur ce journal, elle a grandi avec ce journal, et elle a proposé de planter sa caméra. On a eu une discussion, on a accepté, à partir du moment où elle plantait sa caméra, elle faisait ce qu'elle voulait, c'est son regard. On n'avait pas de droit de regard, c'est pour ça, c'est pas Mediapart, c'est depuis Mediapart, c'est comment elle, et peut-être y a-t-il d'autres regards sur Mediapart. Pourquoi on a dit oui ? Certes, sans aucun doute, parce qu'on avait confiance, mais aussi pour la raison que vous posez, qui est de soulever le capot. On est encombré, Mediapart. On est encombré par quoi ? Par une moustache. Elle est
incontournable.
Oui, mais justement, elle est beaucoup trop encombrante. Mediapart, c'est pas moi. C'est moi, bien sûr. Bien sûr que on a été, on est 4 cofondateurs. J'ai porté ça. Je suis un peu le crieur de Mediapart. Bon, ok, bien sûr, je ne me dérobe pas et je ne joue pas une fausse modestie. Mais je dis que le succès de ce journal, sa vie interne, son fonctionnement, n'a rien à voir avec l'image publique qui en est donnée. Et une image publique où, en plus, se mêle quelque chose qui ne va pas, y compris la première question l'illustrait, c'est que moi, j'ai une vie avant Mediapart. Et une vie avant Mediapart où la plupart de ceux qui font Mediapart aujourd'hui n'étaient pas nés. Quand je fais l'affaire Greenpeace en 85, ils n'existent pas, pour beaucoup, ou ils sont tout petits. Donc, il y a l'équipe de Mediapart à l'âge de ma fille. Il y a un gap de... Donc, c'est ce qui est formidable, hein, c'est cette transmission. Mais ça veut dire que c'est insupportable pour l'équipe de Mediapart de se voir en permanence ramenée à une histoire qui préexiste, c'est-à-dire l'itinéraire professionnel de son plus emblématique fondateur. Et donc, ouvrir les portes à Naruna, c'était aussi jouer sur cette complicité-là. Comme elle dit, c'est son journal et cette rédaction, c'est sa génération. Et les gens qu'elle filme, pour l'essentiel dans le film, c'est sa génération. Ce sont des gens comme elle, de son monde, hein, qui boivent les mêmes bières, qui discutent des mêmes choses, qui ont les mêmes passions, les mêmes interrogations. Donc, pour moi, la réussite du film, c'est ça. C'est un film qui dit une vérité de Mediapart qui est totalement démystificatrice par rapport à la vision qu'on en a de l'extérieur, avec toutes les cabales et toutes les personnalisations et tout. Alors, par ailleurs, sur l'autre question, bon, je touche du bois, mais comment dire, nous ne sommes pas dans la même situation que Charlie Hebdo, hein, par rapport à des menaces terroristes, géopolitiques, qui avaient une dimension tout à fait menaçante. Et par ailleurs, mais peut-être on peut être en désaccord avec moi, moi je pense que nous sommes dans des sociétés ouvertes. Et on ne peut pas faire un journal en étant fermé à double tour, en ayant des policiers autour de vous. Bon, voilà. Il faut essayer, évidemment, de ne pas être imprudent. Il faut essayer de ne pas jouer, de ne pas s'exposer à des fous. Mais ça peut arriver, hein, et ça nous arrivera peut-être. Et voilà, on reçoit aussi des menaces. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'ai été déposer une plainte au commissariat. On a parfois des visites un peu bizarres, bien sûr que ça arrive. Mais je ne suis pas pour ajouter de la surveillance à la surveillance. D'abord, notre meilleure protection, c'est le soutien du public. Et c'est ça qui nous protège.
De ce côté-là, le film est très bien fait. Parce que vous et Louis Plenel, vous êtes très... Je dirais pas en retrait, mais très, très peu présent finalement, hein, si on faisait le compte des minutes. Et on voit bien, je ne sais pas si c'est l'ensemble, en tout cas énormément, hein, de ceux qui travaillent là, avec d'ailleurs des générations différentes, hein, parce qu'il n'y a pas que des gens de 30 ans. Hein, et donc, le spectateur, hein, pénètre effectivement, hein, dans l'univers Mediapart, tel qu'il est actuellement.
Justement, allez-y. Vous avez souvent, on voit à plusieurs moments, vous arriver face aux gens qui ferment leur ordinateur en train d'être ou complètement désespéré face à un résultat d'élection, disant depuis quand le résultat de l'élection est la fin de l'espoir. Est-ce que vous avez vraiment beaucoup ce rôle-là face à vos plus jeunes rédacteurs?
Je ne sais pas, mais comment dire, le bonheur pour moi, Mediapart, c'est cette relation-là qui est. Comment dire, qu'il y a une histoire de transmission. Bon, moi, j'ai défendu depuis longtemps quelques principes, quelques valeurs dans ce métier. Ça me vaut, y compris dans ce métier, pas mal de coups et d'animosité parfois. Et d'une certaine manière, l'accomplissement de tout ça, c'est Mediapart, puisqu'on a réussi à créer quelque chose où il n'y a pas de fil à la patte, où on a réussi à créer ce lien générationnel, à ce que ce soit une réussite, y compris en termes d'entreprise, hein, puisque aujourd'hui, Mediapart, c'est près de 100 salariés, c'est sur 11 ans, c'est 8 années profitables, il n'y a pas d'endettement, il y a des économies, enfin bref, on a réussi tout ça. Et donc, c'est vrai que comment dire, je dis souvent que je suis le bouclier de Mediapart. Je suis là pour protéger cette histoire. Et aussi, en effet, pour lui donner confiance en elle, pour qu'elle ait confiance, pour que cette histoire, elle va appartenir à toute cette équipe. Elle lui appartient déjà, mais elle va lui l'appartenir vraiment. On ne va pas vendre Mediapart, on ne va pas transmettre Mediapart de manière patrimoniale. C'est cette équipe que vous voyez qui va, et c'est déjà le cas, hein, dans le film, vous avez François Bonnet, le cofondateur et directeur éditorial. Depuis, il a passé la main à un tandem paritaire qu'on voit dans le film. Par ailleurs, surtout l'un d'eux, Stéphane Alliès et Karine Fouteau, qui ont la quarantaine, et c'est eux qui font le journal au jour le jour aujourd'hui. Donc oui, je crois quand il y a des, comment dire, quand il y a des polémiques comme les polémiques autour de l'affaire Benalla, des attaques comme celle de M. Dupond-Moretti récemment, je suis là aussi pour conforter, pour expliquer, pour répondre aux détracteurs, ce que j'ai fait la semaine dernière, voilà. Oui, j'ai ce rôle-là, peut-être que, en plus, ça y est, les cheveux commencent à blanchir, donc ça y est, ça va un peu plus visiblement assumer son âge, j'ai 66 ans. Hein.